c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présentes malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, rêveurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, il est 9h du matin et vous écoutez l'émission En bas à gauche, la programmation estivale. Je vous invite à visiter notre blog pour en savoir plus. En bas à gauche, wordpress.com.
Ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un qui en charge sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit est avant tout un conflit sur la terre.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Dispo, journée de justice pour les prisonniers et les prisonnières. C'est le décès d'Édouard Nalon, le 10 août 1974, et de Robert Landers, en mai 1976, tous deux dans l'unité de ségrégation de l'établissement de Millhaven en Ontario, qui semble être à l'origine de cette journée de commémoration. Les détenus de l'établissement de Millhaven ont souligné le premier anniversaire du décès d'Édouard Nolan, le 10 août 1975, par une journée de jeûne et de deuil. Un an plus tard, la date de la journée de la justice pour les prisonniers et prisonnières était officiellement consacrée. La création et la promotion de cette journée sont principalement attribuées au groupe Odyssée, formé en 1976 par Horry Brown à l'établissement de Millhaven. L'Odyssée était un groupe novateur qui défendait les intérêts des détenus. C'est à cette occasion que nous vous rediffusons ce reportage fait en 2009, Fakhreddin, mort suspecte en prison. Réalisé par Liv Ausson de Arte Radio, c'est un reportage à Gibor lors de la marche silencieuse en hommage à Fakhreddin Zarai, décédé le 7 août en prison, dans des conditions assez étranges, à une semaine de sa libération. Sa famille, ses amis, ses voisins ne croient pas à la thèse du suicide défendue par l'administration pénitentiaire. Ils sont soutenus par des associations de familles de détenus. On tente aussi, en vain, d'obtenir des explications de la part de l'administration pénitentiaire. C'est un reportage de 25 minutes que vous pouvez retrouver sur notre blog en bas à gauche.wordpress.com.
Qu'est-ce que fait le gouvernement pour nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout pour nous. On est des chiens, ils veulent nous tuer en prison. Ils veulent... Pour moi, ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre. C'est un meurtre de la part de l'État. C'est ni les juges, ni les avocats, c'est l'État. C'est l'État qui tue tous ces prisonniers. C'est l'État, et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, c'est l'État qui fait tout ça. Ils nous mettent bien de côté. Ils nous mettent très très bien de côté. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Je crois que c'était à la famille de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Hein. Ça, c'est pas le rôle de l'association.
Nous sommes le samedi 15 novembre sur la place de l'hôtel de ville à Givor où il y a 200-300 personnes qui sont réunies autour du kiosque où il y a deux personnes qui tiennent une banderole marquée « Lumière et vérité » pour Fakhreddin avec une personne qui tient son portrait et une dame qui tient des discours de mémoire et des discours de révolte face à ce qui arrivait à ce garçon qui était retrouvé mort en prison à 15 jours de sa libération.
Oui, donc bonjour, je m'appelle Zarai Anissa, Belabed Anissa, pardon, et je suis la sœur de Zarai Fakhreddin. Donc mon frère avait 30 ans, il était incarcéré pour une peine de 8 mois, et à 12 jours de la sortie, on veut nous faire croire qu'il s'est suicidé. Donc ensuite, on l'a évacué à l'hôpital de Lyon-Sud, Jules Courmont. Il était dans un état critique et puis il est resté dans le coma et deux jours après, il est mort.
Oui, je suis la cousine de Fakhreddin. Et Fakhreddin n'avait pas du tout envie de se suicider. Fakhreddin avait envie de vivre. Fakhreddin voulait la paix, voulait se marier, il voulait avoir des enfants.
Tranquille, il aimait bien rire, elle avait un sourire, un visage jovial, on va dire. Après, c'était un jeune, quoi. Personne n'est parfait, quoi. Personne ne mérite la mort au bout du jour de sa sortie, quoi.
C'était quelqu'un, il aimait la vie. C'est pour ça que pour nous, un suicide, ça paraît bizarre. C'était quelqu'un, il avait le cœur sur la main. Il faisait des bêtises, d'accord, mais c'était pas quelqu'un qui pouvait tuer quelqu'un. Non, c'était quelqu'un de... Il faisait des bêtises comme les jeunes, voilà, c'est tout. C'est pas quelqu'un de violent ou non, c'est pas ça.
Fakhreddine, il était comme moi, comme vous. C'est un jeune qui est plein d'espoir, qui veut vivre, il a plein de lettres, il veut se marier, il attend. Il envoie plein de lettres à nous, à sa famille, à sa copine. Ils lui promettent du mariage. Et ils ont tout préparé pour se marier. C'était pour lui, c'est comme toutes les jeunes qui sont isolés par le système. Il a fait plein de bêtises, et il a fait plein de peines, des petites peines, des petites conneries. La dernière, celle-là, c'est 8 mois. Et pour lui, c'était la dernière. Franchement, dans sa tête, c'était la dernière. Et parce qu'il veut se marier, il projette ça. Finalement, il n'est pas sorti. Il est sorti, mais par une autre voie.
Il nous a toujours soutenu, défendu. Il nous a, il nous a dit d'éviter les conneries, quoi. Et moi, je pense pas. J'y crois pas au suicide. J'y crois pas. En venant de lui, j'y crois pas. Voilà, je suis un ami de la famille, de lui, de son frère. Je m'appelle Anthony.
Comme il disait mon ami, son frère nous a toujours dit évitez les bêtises. Ne faites pas ça, elle risque d'avoir ça. C'est la justice, il nous aime pas. Par rapport à nos couleurs, faut pas dire ouais, que ça soit blanc, ça peut arriver à n'importe qui. Que ça soit blanc, noir, beurre, comme on dit black, blanc, beurre, ça n'a rien à voir. Et si ils auraient pu s'attaquer très bien à un blanc, ils auraient pu très bien s'attaquer à un noir. Je suis noir. Notre frère, t'es parti aujourd'hui, tu nous conseillais toujours. Et puis nous aussi, on va faire un truc à sa mémoire. On va se réunir, essayer de faire 2-3 paroles sur notre frère Témur. 2-3 petites chansons, quoi. Et voilà, quoi.
115 morts en prison en 2008. Et le 7 janvier, on en comptait déjà 3 pour l'année 2009. Parmi les disparus en prison l'année dernière, Fakhreddine, 30 ans, originaire de Givors, au sud-ouest de Lyon. Il avait été condamné à 8 mois pour vol. Il devait sortir le 20 août 2008 et il est mort le 7. Le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, où il était enfermé, a déclaré qu'il s'était suicidé, mais personne n'y croit. Parmi les raisons qui poussent à remettre en question cette thèse, c'est que Fakhreddine devait sortir la semaine suivante. Et puis aussi sa taille, il mesurait 1m90 et il se serait pendu au radiateur dans une cellule qui fait à peine 2 mètres de hauteur. On est donc à Givors, en compagnie de sa famille, de ses proches et de ses voisins du quartier des Vernes pour lui rendre un dernier hommage. Fakhreddine, mort suspecte en prison.
Fakhreddine, mort suspecte en prison.
Amine, je suis le frère de Zarai Fakhreddine, j'ai 22 ans et ce qui s'est passé là, c'est louche. Cette histoire, elle est louche et il n'y a pas de justice là, il n'y a rien dans cette France.
C'est arrivé quand déjà la mort de ton frère ?
Au mois d'août, le 7. Et bien en fait, j'étais chez moi, donc c'est le directeur de la prison, il m'a appelé chez moi. Il m'a dit, votre frère, il a fait une pendaison. Et moi, j'y croyais pas, moi. Moi, j'y croyais pas. Je dis, c'est une blague et tout, nanana. Et ensuite, j'ai paniqué, j'étais pas bien et tout. Donc voilà, quoi.
Après, t'as prévenu le reste de la famille où ils étaient ?
Ben, en fait, il y a ma mère qui était en Tunisie. Elle était là-bas. Et ma soeur aussi. Et moi, j'étais avec mon beau-frère, en fait.
Ce sont ses beaux-frères et sa maman qui est allée chercher ses affaires donc à la prison. Et il y a eu, on ne sait pas quelle histoire ou quelle peur ils ont eu à la prison. Puisqu'arrivé un moment, ma tante Salah s'est retrouvée avec plein de gardiens qui étaient là en train d'attendre je ne sais quoi. Et ma tante qui voulait récupérer les affaires de Fakhreddine. Et ils n'ont pas voulu lui donner, ils ont refusé de lui donner et en lui disant on vous donne déjà un petit bout aujourd'hui et il faudra revenir chercher l'autre petit bout plus tard. Et c'est vrai que Saint-Quentin-Fallavier c'est un peu loin, donc ma tante a refusé, mais pourquoi vous voulez pas? C'est comme l'histoire de la cellule, pareil, c'est quand on vous dit que Fakhreddine c'était quelqu'un qui était très excusez-moi du mot, mais très bordélique. Il était très... Il rangeait jamais, il savait même pas ce que c'était que de ranger. Et donc la cellule a été fermée le jour de... C'est arrivé, le jour de l'accident, ça a été fermé. Et quand les beaux-frères sont allés voir dans cette cellule, c'était extraordinairement bien rangé. Un des beaux-frères a demandé au directeur, a demandé, mais est-ce que la cellule a été fermée tout de suite après le drame ? Le directeur a dit oui, ça a été fermé. C'est impossible que Fakhreddine ait pu ranger sa cellule avec autant de soins et avec autant de, entre guillemets, autant de maniaquerie. C'est pas possible. Nous n'avons toujours pas le résultat de l'autopsie. Aux dernières nouvelles, le vice-procureur nous a communiqué qu'il attendait la signature du deuxième médecin légiste, puisque l'autopsie de Fakhreddine s'est faite avec deux médecins. Donc, aux dernières nouvelles, l'autopsie doit être signée par le second médecin. Et apporter donc un avocat si éventuellement on prend un autre avocat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas dire. Il est vrai que quand on a décidé de se suicider, rien ni personne ne peut nous retenir. Que ce soit les enfants ou quoi que ce soit, les parents, rien ne nous retient, la mémoire, mais rien ne nous retient. Mais pas lui. Lui n'avait pas envie, lui il ne voulait pas, lui il voulait vivre aujourd'hui. S'était aperçu, s'était rendu compte de ses bêtises, donc non, il ne s'est pas suicidé.
Nous, on ne veut pas croire au suicide. On pense que c'est, pour parler franchement, un meurtre, voilà. De la part soit des surveillants, d'un détenu, voilà. Nous, on ne veut pas croire au suicide. Moi, franchement, je dis la vérité, j'ai la haine contre le système, déjà contre l'État. J'ai la haine contre tous ceux qui travaillent dans la justice au plus haut de l'État. Et puis moi, je c'est le combat, c'est ma sœur qui le mène. Donc si vous voulez parler avec elle, ouais, c'est Nabila qui fait les démarches, qui fait tout. Moi, j'ai un seul sentiment, c'est de la haine contre l'État, c'est tout.
Voilà, je m'appelle Nabila, je suis la grande sœur de Fakhreddine. En fait, si je fais cette marche, si on a organisé cette marche, c'est dans le but de montrer la vraie vérité des prisons, qu'il n'y ait pas d'autre Fakhreddine. Ailleurs ici ou à Lyon ou dans le monde aussi. Voilà, nous, notre but c'était ça. Et j'espère qu'un jour on saura la vérité, parce que notre but c'est ça, la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, Fakhreddine. Voilà.
Donc aujourd'hui il y a eu la marche. La suite, qu'est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser?
Ah oui, moi de ma part, ou qu'il y ait quelque chose qui concerne les prisons, j'y vais. Comme par exemple Catherine, l'association Harpy, je suis montée à Paris la dernière fois. Et tout ce qui concerne les prisons, les gens, s'il y a moyen d'aider, ou avec l'association Harpy, on aide, il n'y a pas de problème, voilà.
Comment vous l'avez rencontrée, Catherine, du coup?
Catherine, je l'ai rencontrée avec... C'est Karine qui a l'association Faites Entrer la Lumière dans les Prisons. C'est elle qui m'a donné l'adresse. Et après, je suis montée à Paris, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Donc vous, Catherine, vous êtes une militante anti-prison?
Alors moi, je suis plus une résistante qu'une militante. Ouais, militante, ça veut dire... porter des banderoles, militer, crier, ça je sais pas le faire, et en plus c'est pas mon truc. Par contre, résister, ça fait des années que je fais ça face au système carcéral et judiciaire avec mes fils. J'ai commencé et j'ai commencé à batailler contre les quartiers d'isolement. J'ai animé pendant 4 ans une radio anticarcérale, et puis je me suis dit nous, les proches de personnes en prison, on n'est absolument pas respecté, on est traité comme des merdes, alors que nous sommes les garants de la réinsertion, soi-disant, des personnes qui sont à l'intérieur. Donc j'ai décidé il y a très peu de temps de monter une association pour soutenir les proches de personnes détenues. Nabila est venue de Lyon, elle est montée à Paris et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et encore une fois, elle n'était pas dans la haine, elle voulait juste savoir, et je trouve que c'est normal de vouloir savoir ce qui se passe, parce que le système quand même carcéral, c'est une machine à broyer, hein. Il faut le savoir, il faut être clair là-dessus. Et vouloir faire la vérité quand on a un proche qui meurt en prison, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de plus normal pour moi.
Pour l'histoire de Fakhreddine, on a une sorte d'espoir de pouvoir avoir une sorte de lumière sur ce qui s'est passé, de vérité. Est-ce que personne ne croit à cette thèse du suicide à 10 jours de la libération?
La lumière, ça va être très difficile. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas plus opaque que les. Il y a une omerta carcérale sur les histoires qui se passent en prison. Fakhreddine, il est mort dans des conditions troubles. Moi, je ne peux pas dire on l'a tué, j'y étais pas. Par contre, il y a un dossier qui va sortir. J'ai entendu des histoires. Il se serait pendu. Il n'a pas de marque de strangulation. Il avait des griffures. Il avait des bleus. Il y a un moment, il faut s'interroger. Y a des histoires comme ça sont multipliées par des dizaines et des dizaines, et ça c'est pas acceptable.
Alors juste rappelle-toi, ouais, t'es Karine de l'association
Faites la lumière en détention. Et donc nous on a appris que suite au décès de Fakhreddine, quelques heures après, plusieurs dizaines de détenus ont été transférés sur Saint-Paul-Saint-Joseph, Villefranche, Vars. Donc pour nous, évidemment, ça nous pose question. Quand il y a des transferts de ce type qui sont organisés dans la précipitation, il est évident que des choses vont être cachées, puisque qu'il est suicide ou pas, du moment qu'on retrouve un mort en détention, il y a enquête. Et normalement, les détenus doivent être auditionnés. Donc, comment cela va pouvoir se faire s'ils sont dispatchés dans toute la France? Nous, on rappelle quand même, dans une autre affaire, même le Père Senoël n'a pas été transféré, mais il a été muté, hein, comme une assistante sociale ou une professionnelle de la santé. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec cette pratique, et je pense qu'il faut la dénoncer, et que les témoignages, en tous les cas, qui peuvent être rendus sur la mort de Fakhreddine, eh ben, doivent être mis au grand jour.
Fakhreddine, mort suspecte en prison.
Bonjour.
Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à la cellule communication, madame Duhaillon, s'il vous plaît.
Jeudi 27 novembre.
Oui, allô?
Madame Duhaillon?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Olivier Minot, je suis journaliste indépendant et je fais actuellement un reportage sur le décès de Fakhreddine Zahra, qui est décédé à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Et je voulais savoir à qui il fallait s'adresser.
Pour quand?
En août dernier. Et je voulais savoir à qui il fallait s'adresser pour savoir un petit peu ce qui s'était passé.
Il faudrait envoyer un mail. Vous écrivez pour qui?
C'est pour Radio Pluriel, Radio de Saint-Priest à Lyon.
Il faudrait envoyer un mail.
Ok. Et généralement, il y a longtemps de délai ou...
Ça dépend des demandes.
Ok.
On essaie de répondre plus vite, hein, mais parfois ça peut prendre un peu de temps. Soit fin de semaine... Bah non, on est fin de semaine, début de semaine prochaine.
Début de semaine prochaine.
Oui.
Ok, je vous envoie le mail tout de suite.
Voilà, merci.
Merci bien, au revoir.
Mardi 2 décembre.
J'ai votre mail. Hein.
D'accord.
Oui, j'ai lancé le démarche, mais j'ai pas eu de réponse. Je sais pas si je vais nous réunir la semaine prochaine parce que mes directeurs sont pas mal en vadrouille en ce moment. Et sinon, on va être les fins de semaine.
Jeudi 4 décembre.
Oui, j'ai toujours pas de réponse.
Hein. Toujours pas de réponse?
Non.
Et comment ça se fait en fait?
Simplement parce que je tombais pas à la très bonne. Dans une période propice, hein, parce que il y a un colloque international là dans une semaine, et donc que ça a pris du retard, tout simplement. Que mes directeurs sont beaucoup en déplacement, que j'ai du mal donc à les voir hein, par rapport à ça. J'ai un peu avec mes directeurs demain matin.
Ok, donc je rappelle demain dans l'après-midi.
Rappelez-moi demain dans l'après-midi, oui.
Ok.
Vendredi 5 décembre.
J'ai pas réussi à croiser. Et là, ils viennent partir en copile. À mon avis, je vais pas l'avoir avant 18h. Je peux vous rappeler, moi. Vous avez un numéro de portable?
Ouais, bien sûr.
Alors
0609
0609
69.
Je vous rappelle ce soir. Je le mets en évidence sur mon clavier. Hop, voilà. À ce soir,
encore.
Lundi 8 décembre.
Mais j'ai toujours pas de réponse. Hein.
D'accord, parce que j'attendais votre coup de fil vendredi.
Oui, j'ai vu ma hiérarchie. La demande est remontée au niveau de notre administration centrale. Je pense que mercredi, ça devrait être descendu. Souvent, dès que ça bouge, qu'on ne communique pas dès que j'ai une réponse, je rappelle tout le temps. Voilà, je vous rappelle. Hein. Merci. Au revoir.
Jeudi 18 décembre.
Oui.
Je vous rappelle, je suis journaliste à Radio Pluriel. Je vous rappelle
ce concernant. Oui, je me souviens bien de vous. Hein.
Ouais.
J'ai toujours pas de réponse.
Ok, parce que là, du coup, ça fait 3 semaines, moi, je vais être obligé de boucler mon truc et de
D'accord.
dire que l'administration pénitentiaire veut pas s'exprimer. Quoi.
C'est pas qu'on veut pas s'exprimer.
Bah, au bout de 3 semaines...
Je peux pas m'exprimer ou faire exprimer mon directeur interrégional tant que je vais pas à l'accord de mon administration centrale.
Bien sûr, mais du coup, s'ils répondent pas, c'est que peut-être ils ont pas envie de parler là-dessus, si.
J'en ai aucune idée, je vais les relancer, là, je vous rappelle aujourd'hui.
Ok, ça marche.
À tout à l'heure.
Vendredi 19 décembre.
Vous y allez?
Oui.
Oui.
Essayez de vous rappeler, est-ce que vous m'aviez dit que vous me rappelleriez hier?
Oui, mais j'avais pas de réponse. Et là, ça y est, j'en ai eu. Et ben, en fait, nous, l'administration pénitentiaire a fait le choix de ne pas communiquer sur le suicide.
D'accord.
Donc voilà, on ne souhaite pas s'exprimer. Ben, je suis désolée, je vais attendre très longtemps pour vous dire ça.
Eh bien, je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Malgré l'insistance, l'administration pénitentiaire n'a donc pas voulu s'exprimer sur le cas de Fakhreddine. Une enquête est en cours, mais il est très dur d'attaquer l'administration pénitentiaire. Par exemple, dans le cas de Jawed Zawiya, qui est mort en 96 dans des circonstances troubles à la prison de Bois d'Arcy, il a fallu 12 ans pour que la justice reconnaisse la responsabilité de l'État. Le verdict a été rendu le 17 décembre dernier. L'administration pénitentiaire française est d'ailleurs pointée du doigt par les associations bien sûr, mais aussi par les organisations internationales comme la Commission européenne des droits de l'homme, qui a dénoncé les conditions de détention en France en décembre dernier. On l'a dit, une personne décède tous les 3 jours dans les prisons françaises, c'est 2 fois plus qu'à l'extérieur, et que ce soit des suicides ou pas, on peut légitimement s'interroger sur les responsabilités de l'État dans tous ces décès. Avec ce contexte, et la douleur de la disparition d'un proche, on comprend la révolte, l'émotion et donc les propos parfois violents tenus lors de ce rassemblement en hommage à Fakhreddine en novembre dernier à Givor.
Fakhreddine, mort suspecte en prison.
Que ce soit ici à Givor, à Lyon ou à Paris ou à Marseille, il y a beaucoup de parents qui doivent souffrir de la mort de leur enfant. Et peut-être que moi, dans 10 ans, mon petit-fils, j'espère pas, quoi, hein, qu'il soit en prison et qu'il... Voilà, quoi. On sait jamais ce qui arrive, la société, ça va tellement vite que... Et nous, on est souvent ciblés les jeunes, quoi, les jeunes de quartier, donc on est plus susceptible à ce genre de dérive, on va dire, de la part de l'État, quoi.
Et comment ça se fait que ce soit plus les jeunes de quartier qui sont ciblés par ce genre de...
Les jeunes de quartier, ben, parce que il y en a beaucoup qui sont au chômage et ils traînent un peu en bande et ils se font provoquer par la police et ils en ont marre de la société, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de sous, ils s'emportent envers eux et après des fois il y a des dérives, hein, que ce soit des fois des dérives à l'intérieur de la prison et même à l'extérieur. Hein, des fois il y a les policiers qui ils ont des dérives envers les jeunes, hein, mais bon ça on ne le sait pas quoi. Il n'y a que les jeunes entre eux qui le savent quoi. Et... Qu'on dise. Eux, ils sont assermentés, donc eux, ils ont toujours raison. Nous, on a toujours tort.
Il y a une persécution de la part de l'État, de tous les jeunes qui sont dans les quartiers. La police passe 20 fois pour contrôler des jeunes qu'ils connaissent et qu'ils ont vu grandir. Oui, il y a une persécution de la part de l'État. Ouais.
Liée au quartier populaire.
Oui, 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 liée même aux maghrébins, je dirais, pour plus préciser, à la communauté maghrébine.
C'est un racisme qui est généralisé, on ne comprend pas. Moi, personnellement, quand je me fais contrôler plusieurs fois, et à chaque fois qu'ils me contrôlent, d'entrée de jeu, je suis accusé. Et une fois qu'ils arrivent, ils me traitent d'une manière que... Mais maintenant, j'ai compris, je garde mon calme et tout. Et après, quand je dis que je suis infirmier, à chaque fois, ils changent de comportement. Je vois des racismes envers les jeunes. C'est suivant l'échelle sociale que... À chaque fois, il y a des gens qui ils n'ont pas cette chance, donc vous voyez comment ils sont contrôlés. Franchement, je vois que c'est n'importe quoi ce qu'ils font. C'est n'importe quoi.
Et moi, j'y crois pas, mon suicide, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est les matons, ils l'ont tué. Ils l'ont dû l'étrangler ou ils ont dû le piquer. Mais il n'y avait aucune trace de strangulation dans son cou. Donc on ne croit pas au suicide. Moi, je n'y crois pas. C'est impossible, j'y crois pas au suicide. C'est pas possible.
C'était Fakhreddine, mort suspecte en prison.
Un reportage d'Olivier Minot.
Merci à la famille, aux associations et à tous ceux et celles qui ont bien voulu parler dans le micro depuis Givor. Salut.
Farad, on ne lâchera pas l'affaire. On sera toujours là pour toi. Nabila, Anissa, Wan, tout le monde. On ne lâchera jamais l'affaire et on veut savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort, on s'en fout du reste. Le reste, on s'en fout. Et tu seras toujours dans mon cœur, mon frère, et dans ma tête aussi. Toujours, tout le temps. Même pendant la nuit, quand je dors, c'est pareil. Toujours dans mon cœur, tu seras toujours là pour toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Il se fait tard, très tard, bientôt le soleil, et Mouha n'a pas sommeil. Il veille les yeux vides sur le carreau aride, au mur de sa minuscule cellule. Une cigarette mal roulée se consume et tremble au bout de ses doigts exsangues qui semblent mourir le long de sa jambe. Mouha ne bronche pas, les mots sont froids, leur écho se cogne parois de cette cage qu'il partage avec un rayon de lune voilée et quelques rats pressés au pas vif et feutré. Par terre, en miroir, s'est éparpillé en mille fragments de verre parmi deux, trois bibelots, des vêtements, une radio et des livres coincés sous un meuble renversé. Une sale odeur au Roland, d'urine et d'excréments flâne et se pavane depuis que les chiottes sont tombées en panne. La tête dans une volute de fumée diaphane, Mouha accroupi au pied du lit serre dans sa main une photo jaunie, une vieille photo où un grand homme droit a mis sa plus belle chéchia. Un grand homme droit que tout le monde fête à son retour de la Mecque, mais un grand homme droit qui vient de partir dans un ultime soupir. Un peu de sel sur une plaie ouverte, un peu de sel sur une plaie ouverte. Un peu de sel sur une plaie ouverte, un peu de sel sur une plaie ouverte. Durant la promenade à l'écart des camarades de misère habituelle et selon le rituel, Mouha tourne et tourne puis s'enroule en boule dans des mots qu'il traîne, chuchotés à lui-même, des mots qui malmènent, qui se referment et qui drainent de lourdes larmes blanches, très vite essuyées d'un revers de manche. Il avait tant à lui dire, tant de choses à finir, rattraper le pire, voir s'esquisser un sourire sur son visage où l'âge avait creusé les entailles d'une trop longue bataille sur des chantiers de ferraille. Et Mouha s'injurie, et Mouha se maudit en tirant la courte corde de sa chienne de vie. Sans grandes œuvres, ponctuées de basses manœuvres, comme un mauvais fleuve à la sortie de l'échec qu'on lui a vite appris à conjuguer du bec sur des pupitres en bois sec. Les blocs de Nanterre ont des mâchoires de fer et le cachot tire la chasse en effaçant les traces. Un coup de sifflet ramène tout le monde à l'entrée, on se presse encore sans la force d'un effort à l'exacte verticale des miradors. À l'exacte verticale du mirador. Un peu de sel sur une plaie ouverte, un peu de sel sur une plaie ouverte. Un peu de sel sur une plaie ouverte, un peu de sel sur une plaie ouverte. Se fait tard, très tard, bientôt le soleil, Mouha dort dans lourd sommeil. Au matin, il se rendra à l'atelier souder des pièces d'acier, de quoi payer le miel de sa gamelle. Et puis, si la fatigue se tait, il relira cette lettre froissée qu'il n'a pas pu envoyer et qui semble saigner sous les toits d'ardoise du pénitencier.